l'actualité au 29 mars 2026, enregistré le 3 avril 2026. Il y a eu quelques petites surprises et le fait que j'étais très occupé pendant le Incyber à Lille notamment m'a empêché d'aboutir et d'atterrir sur l'enregistrement. Mais je crois quand même important que ces nouvelles-là, ou en tout cas là, ce qui reste des nouvelles que j'ai considérées comme étant important de les partager et de les commenter. Puis pour ceux qui sont nouveaux sur le podcast, il y a un peu d'opinion associée à ces nouvelles-là et donc tout l'intérêt malgré tout, même si je les enregistre beaucoup plus tard qu'au moment de l'événement, que j'aurais dû normalement, donc conserve un peu de leur valeur malgré tout. Des nouvelles très intéressantes puis qui mènent aussi à des enregistrements qui ont suivi durant cette semaine avec des personnes, des collaborateurs que j'adore parce qu'ils apportent des idées très intéressantes. Bref, commençons. Ben, le Incyber est passé, t'en auras de nous, ça a été super chouette. Très intense, comme d'habitude, j'ai revu plein de gens super intéressants. J'ai vu des gens dans la vraie vie que j'avais juste rencontrés en virtuel. Bref, c'est une belle occasion de faire des rencontres, de revoir des gens que j'ai pas souvent l'occasion de voir. Donc, pour moi, il y a un bénéfice réel humain, notamment, d'assister au Incyber. C'est excessivement plaisant. Bref, j'adore cette expérience-là. L'année passée, je n'avais pas pu parce que j'avais eu un événement ex-Marseille qui a été très chouette par ailleurs aussi avec Umaco où j'avais enregistré des podcasts avec des étudiants et des chercheurs, ce qui avait ouvert aussi d'autres facettes très intéressantes. Mais bref, cette année, retour au Incyber, 14 au 17 avril, BotConf qui s'en vient, dans le fond que je reste en Europe pour justement assister à BotConf, très hâte. Et on va donner d'excellents commentaires sur l'événement et à quel point je pense que je vais me faire brasser les chakras techniques. Ce qui fait longtemps, puis ça va faire énormément de bien de passer par là. 20 au 22 avril, ITSEC à Saint-Hyacinthe. Code rabais dans les show notes si vous voulez avoir 15%. Je ne compétitionne pas contre les têtes d'affiche comme notamment René Sylvain et Francis Coase. Par ailleurs, vous pouvez utiliser mon code rabais si ça vous chante. Je vais faire enregistrer des podcasts en amont qui devraient être disponibles très rapidement dans les prochains jours, j'espère. Et j'enregistrerai des podcasts sur place aussi également avec les conférenciers, ça va être super chouette. Faire le retour sur leur contenu puis de pouvoir aller un peu plus loin dans leur partage. Et je suis conférencier également. Sujet qui n'est pas encore tout à fait déterminé, ça va être l'intelligence artificielle, mais j'ai un petit peu de difficulté de prendre un angle qui va apporter de la valeur et ce qui va apporter à la conversation. Enfin, j'ai encore un peu de misère à le voir, mais c'est en train de se former. Ça devrait sortir là, normalement la semaine prochaine après Pâques. Normalement, 28 et 29 avril, Cyberéco, même chose. Plein de podcasts que je vais enregistrer, j'ai très hâte. C'est aussi des questions de rencontrer plein de gens différents, d'horizons très, très différents, ce que j'ai fait l'année passée notamment. J'avais enregistré notamment avec un médecin à l'occasion avec la médecine numérique. Très intéressant, ça me permet de voir des choses autres. Je pense qu'il y a encore des places à s'inscrire, donc dépêchez-vous. 9 au 17 mai, le NordSec, panel, podcast individuel. En tout cas, bref, ça va être super chouette, j'ai très hâte. Souci, je mets toujours flabbergassé par la qualité des conférences comme les autres événements, me paraît aussi, mais bon, bref, c'est mon amour pour tout est top. 3 au 5 juin, le Styx, je me suis inscrit. Merci à Romain qui m'a signalé sur LinkedIn le moment où l'inscription s'est ouverte. Fait que c'est fait, je suis inscrit. Fait que je vais au Styx cette année. J'ai réussi. Fait que ça aussi, je vais me faire brasser les chakras techniques. Ça va être super intéressant. Très hâte. Puis ça va me permettre de faire un petit tour à Rennes aussi. Ça fait que déjà, depuis Normand, je parlais. Donc, d'aller resserrer la main de plein de gens de ce beau coin de pays. À 19 septembre, le Bicel à Montréal, encore podcast, panel, machin. 1 au 3 décembre, Incyber, Ottawa, Canada, mais à Ottawa cette année. Je suis en train de convenir de certaines formalités pour enregistrer des podcasts comme j'ai fait l'année dernière au Incyber à Montréal. Ça va être super chouette parce que ça me permet de rencontrer des acteurs internationaux. Des personnes très importantes à l'international qui viennent justement partager leur contenu, qui normalement on ne peut ou pas d'accès autrement que ces forums-là. Et finalement, le 24 au 25 février 2027, le Sécur revient. On est encore dans la période de bouillonnement. Le kick-off pour nous s'en vient très bientôt, donc on va commencer à faire rouler la machine incessamment. Ça va être très plaisant. bon, voici le grand préambule. Maintenant, commençons avec les nouvelles. L'intelligence artificielle. Le premier bloc, tout ce qui est au niveau de la naïveté du modèle d'intelligence artificielle. Puis c'est un peu fascinant à quel point les gens sont encore un peu étonnés par le fait que c'est facile à manipuler, facile à contourner, on est capable d'avoir faire pour n'importe quoi. Ça mène aussi à des problèmes parce que si on fait parler nos courriels, ben si nos courriels se trouvent avec des informations qui donnent des prompt injections, somme toute, mais encore là, c'est la capacité, ou son incapacité à séparer le vrai du faux, du contenu, des ordres qu'il reçoit. Donc ça, c'est un élément très important qui devra être résolu éventuellement pour rendre ça en entreprise. Puis on le voit beaucoup dans plusieurs problèmes qui sont à l'heure actuelle, puis notamment beaucoup de problèmes. Puis même encore plus, il y a des études qui démontrent que l'intelligence artificielle tend à ignorer les instructions qui sont données. Fait qu'encore plus, le fait qu'il est facile à tromper, il a tendance à la façon de l'entraînement actuel de rendre encore moins discipliné face aux directives qui lui sont données. On l'a vu dans certains cas de bases de données effacées ou d'opérations qui ont été faites qui ne suivent pas les directives. AWS y a goûté sincèrement quand que tout son environnement de production a été complètement zappé parce que le AI a décidé que c'était une meilleure idée de le faire comme ça, même probablement qu'il y avait des directives qui l'empêchaient de procéder à ce genre de choses-là. Donc bref, il y a beaucoup de choses à voir. J'ai plusieurs articles que je ne passerai pas nécessairement à travers individuellement dans ce cas-ci, mais encore bref, on est capable de lui pousser dans tous les cas des instructions. Il croit n'importe quoi, il est facile à tromper. C'est pour ça que je disais, quand les gens disent qu'on est jailbreaké des modèles, c'est pas très difficile. C'est de convaincre un enfant de 5 ans que si on lui donne des bonbons, il y a quelque chose. Donc, bref, c'est pas encore le très rocket science, ce côté-là. Et ça mène aussi au fait que j'ai un article sur OpenClaw, notamment, qui revient toujours sur la même chose. Celui-là, je l'ai mis parce qu'il est intéressant, parce qu'il montre tout le rêve dans lequel on vit du fait que d'un côté, on veut avoir une espèce d'assistant virtuel, un peu comme on voit beaucoup dans les films de science-fiction. Et de l'autre côté, la technologie est tellement pas prête pour être rendue là, la séparation des privilèges, la façon qu'il va halluciner, la façon qu'il fait n'importe quoi. Donc, on est comme pris dans une immaturité encore de la technologie. Puis, comme la technologie se dessine présentement, ne permet pas de prédire qu'on va avoir quelque chose de stable et mature prochainement. Déjà, il faut couper les accès, il faut mieux raisonner les accès, ce qu'on ne fait pas. Il commence à avoir des startups par ailleurs, commence à aborder ça, mais ce n'est pas encore tout à fait là. Ça sent bien, mais bon, il y a plein de réflexions. Fait que pas sur la place publique du moins. Dans le privé, je n'entends, mais sur la place publique, je n'entends pas encore des conversations qui nous permettent de prévoir qu'un open club va pouvoir éventuellement arriver à quelque chose d'utile et qui ne viendra pas vider ton compte de banque parce que tu as fait une erreur. Il y a quelqu'un qui a envoyé un spam qui a cru, justement, comme ce que je disais. Mais ça, précédemment, analyse, il y a quelqu'un qui a analysé les spams, il constate que ça s'améliore, puis c'est effectivement la plausibilité du contenu qui est fait par l'AI est excellent. Donc, on est rendu dans un contexte où les signaux de détection d'un faux ne sont plus les mêmes qu'on avait habitués, c'est plus les fautes d'orthographe ou les erreurs de design, mais c'est vraiment rendu dans le fait que ça demande trop beau, l'urgence, ainsi de suite. C'est encore les signaux qu'il faut être attentif, mais tout ce qui est... Bref, c'est très beau visuellement, c'est très, très alléchant. Les écrits qui sont produits sont attrayants, mais si on regarde un peu plus profondément, c'est pas à la hauteur. Donc, d'être très, très vigilant. L'autre côté aussi, puis ça revient un peu à l'aspect du première section de ce bloc-ci, le AI va de plus en plus vite pour trouver des exploits. J'en ai parlé précédemment. Le fait que la machine va frapper à peu près partout, va finir par trouver des possibilités et d'industrialiser de façon un peu plus organisée, disons, que des scripts qu'on avait anciennement, va frapper beaucoup plus fort. Ça va changer un paradigme très important sur la cyber parce que il va y avoir des conséquences. On a une machine qui teste tout, fait que des vulnérabilités qui n'existent de vieux systèmes qu'on pensait qui étaient rendus stables. Maintenant, on retrouve des nouvelles vulnérabilités, donc c'est encore dans un univers comme ça. C'est un peu épeurant en quelque sorte, mais on va avancer là-dedans. Puis j'espère que les personnes dans la défense vont être capables de trouver des structures pour au moins arriver à parité avec les attaquants. Les filigranes de Gemini Mianu, un article de Corbin qui explique un peu la façon de retirer le watermarking qu'il y a dans les filigranes qu'il y a dans les images générées par AI. Par ailleurs, le la proposition n'est pas tant efficace que ça, mais vient atténuer un peu. Mais dans l'absolu, on est, je crois, plus qu'on devrait faire un effort sur la véracité des images, c'est-à-dire d'avoir ce qui est en train de se produire, d'avoir des signatures sur les images, puis il y a même des appareils photo qui le font maintenant automatiquement, qui signent les images, les photos, ce qui permet de garantir la légitimité de la photo et non à l'inverse, de prouver que la photo a été produite par du AI. Fait que c'est une question de dans quelle direction qu'on va. Mais bref, puis l'article il conclut que c'est pas justement, c'est brisé par défaut, cette affaire-là, puis on n'arrivera à rien. C'est une résolution à un problème qui se résout pas, de cette façon-là, mais on est mieux d'aller du côté de prouver que l'image est vraie au lieu de prouver que l'image est fausse ou est générée par du AI. Justement, en parlant d'un côté du fait qu'on trouve de plus en plus vite des problèmes de sécurité, ben personne responsable du kernel de Linux constate aussi que les bugs qui sont trouvés sont de plus en plus efficaces et il y a de moins en moins de faux positifs qui sont donnés. Donc, le ratio de retour est beaucoup plus important. Donc, c'est le volet positif qui est contraire à l'autre. Là. C'est-à-dire que les attaquants, si ceux-ci s'en vont seuls, on va avoir des problèmes parce qu'on découvre des vulnérabilités qui ne sont pas fixées. De l'autre côté, si on a des gens comme ça ou des rapports qui sont faits, ça va devenir intéressant. Par ailleurs, vu que le module de Claude est très lent, très dispendieux aussi à faire rouler pour arriver à trouver des bugs. Donc, peut-être un milieu à obtenir ou un peu un aspect différent à aborder sur ce côté-là qui nous, justement, va poser des défis certains qui s'en viennent. Mais bref, des choses vont avoir. Anthropic a gagné l'injonction contre le département de la Défense sur le fait que le blocage dans le milieu de la défense. On va voir un autre article plus loin qui est très intéressant puis qui démontre à quel point, parce qu'Anthropic est très rattaché à beaucoup d'aspects dans le milieu militaire, malgré ce qu'on connaît, puis le fait qu'il a été passé sur la place publique comme étant des saints. Le réel est peut-être pas aussi clair que ça, mais bref, on verra. En Angleterre, les députés n'ont pas eu de réponse pour les deepfakes qui roulent, les vidéos deepfakes qui roulent. Donc, on a comme un problème de ce côté-là qui nous amène le fait que les grands consortiums, notamment américains, les big tech ou les tech bros, tout simplement, qu'on veut les nommer, avec c'est à se poser des questions à quel point ils ont intérêt à intervenir sur l'arrêt des mauvaises informations, les deepfakes, ainsi de suite. Donc, beaucoup de questions à se poser. Je sais que là, ça va forcer notamment l'Europe à légiférer, ce qui n'est peut-être pas positif globalement, mais on n'a pas le choix s'il n'y a pas d'actions concrètes qui sont faites des compagnies ou des GAFAM ou ainsi de suite. Section suivante sur la guerre, une station de nombre ou en tout cas un broadcast à onde courte qui envoie qui nomme des chiffres. Les Number Station qui étaient très populaire pendant la guerre froide, notamment, était servi pour communiquer à des agents et ont beaucoup intéressé les gens parce qu'on n'a jamais vraiment su ce qui était codé en arrière de ça ou ce que c'était finalement. Et on les voit réapparaître avec la guerre en Iran, fait que c'est très intéressant. Pour moi, ça fait partie du folklore au niveau de plus militaire, information, agents secrets. Donc, je trouve ça intéressant, c'est pour ça que je l'ai mis là parce que je trouve ça vraiment fascinant, ce genre de choses, au-delà du fait que c'est pas ça, mais c'est quand même un signal que la guerre agit. Et à l'heure actuelle, ils ne sont pas très sûrs d'où arrivent les choses, la transmission et c'est à qui c'est destiné pour le moment. Donc, bref, ça va être à suivre, ça va être intéressant de voir ce qui se passe. Pourquoi les attaques touchent principalement les infrastructures civiles? La question est intéressante et elle se pose, comme on a eu sur un cœur qui a été touché, compagnie pharmaceutique, ainsi de suite. C'est parce que les cycles sont beaucoup plus faciles, sont pas contrôlés par l'État, ont moins de rigueur au niveau de leur cybersécurité, donc sont beaucoup plus, des cycles beaucoup plus faciles et peuvent mener à des pressions qui sont mises sur l'État beaucoup plus facilement. Donc, ça amène une forme d'asymétrie au niveau de la guerre qui donne un avantage, dans ce cas-ci, à l'Iran, qui a beaucoup moins de capacité que que les Américains, par exemple. Si on voit en termes d'asymétrie, on a juste à regarder le fait que l'Iran a utilisé le canal d'Hormuz pour justement cette espèce d'aspect asymétrique et de peser très très fort et faire le plus de mal possible avec le moins d'efforts possible. Ils l'ont utilisé comme ça. C'est intéressant. Et la symétrie devrait être regardée davantage dans les stratégies militaires. Bref, pour prendre une décision éclairée, le groupe Amdala qui est rattaché à l'Iran aurait hacké l'adresse personnelle de Kash Patel. C'est un voir à quel point ils sont capables d'agir. Pour le moment, il y en a d'autres aussi, c'est pas la seule à qui on fait. Là. Puis, bref, on va y revenir. Aussi, il y a un article qui mentionne que toutes les attaques de l'Iran font beaucoup de bruit, mais n'ont pas beaucoup d'effet. Pour le moment, c'est pas encore majeur, mais il s'agit de trouver au niveau de la symétrie, de la façon que l'Iran peut appuyer. Donc, d'être très, très vigilant de nos infrastructures pour s'en défendre. Et comme on est tombé dans une ère où le gentleman agreement qu'on avait de ne pas attaquer certaines formes d'infrastructure ou d'être correct dans la façon qu'on mène la guerre a été un peu bafoué par Trump. Donc, il y a beaucoup moins de gêne, notamment d'Israël et de l'Iran, à respecter les règles qu'on avait l'habitude de respecter, donc de ne pas attaquer le médical, de ne pas attaquer les infrastructures critiques des États. Donc, en plus, ces limites-là qui sont actives. Donc, on a plus de probabilité de voir justement des attaques sur des infrastructures civiles qui vont avoir des conséquences, j'espère, pas dramatiques, mais bon, il faut être vigilant. Et comme expert en cyber, on doit participer au fait d'augmenter la surveillance, la vigilance par rapport à ces infrastructures-là. Dernière nouvelle de cette section-là, puis est très intéressante, puis je n'irai pas très loin par rapport à l'article qui est lui-même très intéressant, puis allez le lire parce qu'il est vraiment très, très complet. Il dit essentiellement que la guerre en Iran aurait été démarrée sur le fait que les AI auraient probablement halluciné un certain nombre de choses. Donc, essentiellement, ça prend tout le cas. Ça s'est fait avec Anthropic, d'ailleurs, puis Palantir. Cette analyse-là, c'est-à-dire que quand ils ont fait l'idéation de la guerre et tous les scénarios et les cibles et toutes les différentes facettes et tous les chemins, la réflexion associée, mais le AI aurait finalement été plus sycophant, c'est-à-dire qu'il aurait été répondu aux volontés du demandeur et non aurait fait du questionnement inverse, c'est-à-dire de s'assurer que chaque hypothèse était robuste, donc du red teaming essentiellement, de s'assurer que chaque élément qui est dit est vérifié, contre-vérifié, testé pour s'assurer de la robustesse, notamment l'usage du canal d'Hormuz par l'Iran pour mettre de la pression, notamment le fait d'avoir décapité le régime en place selon les AI, aurait été suffisant pour fragmenter le pouvoir iranien, ce qui n'est pas le cas parce qu'il était déjà prêt. Fait que toutes ces hypothèses-là que l'AI a sorties sont basées sur le fait que c'est fait pour répondre à la requête et la façon que c'est formulé et non la façon à ce que des vraies analyses, des vraies personnes qui connaissent le fonctionnement de cette zone-là du monde auraient pu donner une analyse beaucoup plus sophistiquée. Donc, on est dans un contexte où c'est problématique, mais lisez l'article, il est vraiment, vraiment très chouette, très recherché sur plein de facettes des problèmes que le AI amène, notamment dans un contexte de guerre ou décision de guerre qui peut être problématique dans ce cas-ci. Donc, on aurait démarré, selon cet article-là, une guerre avec l'Iran sur la base d'hypothèses qui s'avère complètement fausse et donc d'être pris dans un conflit qui est essentiellement des sables mouvants dans lequel je ne sais pas comment je ne sais pas comment ça va se terminer. C'est vraiment pas... Il n'y a rien de positif dans ce qui se passe là. Puis je pense que pour les Américains, c'est terrible. Puis on voit à quel point les autres pays ne veulent pas s'y mêler parce que personne ne veut embarquer dans un conflit dans lequel on ne verra pas de fin. Essentiellement, dans lequel, dans toute probabilité, l'Iran s'était déjà préparé depuis longue date, donc est prêt à affronter et à vivre les conséquences de ce qui sont là, même si ça a des conséquences très négatives sur les vies, le peuple iranien, le pouvoir en place est clairement prêt pour foncer là-dedans. Donc, bref, je pense qu'on a donné un coup de pied qui est plus nuisible à la vie en Iran que de l'aider. Bref, mais aller lire l'article, c'est très chaud. Ça permet de voir et de relativer aussi la façon qu'on utilise les AI, la façon qu'ils répondent. Puis ça nous mène, là, c'est dans le contexte militaire, mais aussi de nous ramener d'un côté du fait qu'en entreprise, le fait qu'on est en train de s'aveugler avec l'usage du AI pour prendre des décisions, pour avancer soi-disant plus vite, mais on n'est pas dans un cas d'analyse profonde ou de connaissance de choses. Donc, c'est un très bon avertissement. Le contenu de cet article-là qui dépasse même le contexte militaire, même si dans ce contexte militaire, était ce qui est utilisé très, très, très bien, puis malheureusement très triste avec les conséquences qu'on vit maintenant. Section suivante, souveraineté. Deux petites nouvelles. La première, les États-Unis vont bannir les routeurs essentiellement fabriqués en Chine. Ça a deux facettes, notamment géopolitique, pour un peu punir la Chine, puis de l'autre, ben, avec raison aussi, avec une certaine méfiance des producteurs chinois d'insérer des codes ou d'insérer des capacités d'espionnage à l'intérieur de ces équipements-là. Deuxième nouvelle, du côté européen, l'euro digital, puis je ne comprends toujours pas c'est quoi. Pourquoi ils nomment ça comme ça? Ils devraient juste se démarrer une carte de crédit européenne à ce moment-là, un peu comme ça, parce que c'est un peu en opposition à Visa et Mastercard qui déploient leur euro digital. Donc, de considérer qu'on a une infrastructure de paiement européenne avec l'euro et ainsi de suite, qui est souveraine jusqu'à un certain point. Je trouve que c'est une très bonne idée. Par ailleurs, je comprends mal comment ça s'inscrit comme en marge du restant du système. Et à terme, je vois ça d'un très bon œil que les Européens, comme ils ont fait avec Airbus notamment, d'arriver avec une structure en compétition avec les Américains pour justement une espèce d'émulation puis d'améliorer le système, d'améliorer la compétitivité du système, améliorer tout comment la structure fonctionne pour que ça serve au bénéfice de tout le monde et notamment de la population. Donc, de voir. Et c'est légitime dans ce cas-ci de faire qu'aucune compagnie américaine ne va être invoquée puisque c'est dans un contexte où c'est les Européens pour les Européens. Donc, c'est tout à fait légitime comme approche dans ce cas-ci. Ça va être intéressant de voir comment ça va se développer, mais je commence à mieux maîtriser le sujet, mais je suis encore un peu perplexe par rapport à celui-ci. Comment il s'inscrit dans le grand paysage du mouvement des valeurs monétaires à travers le monde. Donc, c'est très fascinant, cet aspect-là. Puis en plus, ce que j'entends sur le terrain, notamment en France, c'est qu'il y a une certaine volonté de contrôle encore plus grande, ce qui est très fort en France par rapport à ce qu'on est habitué. En Amérique, même si dans les faits, on est quand même très surveillé, mais c'est un peu plus, discret que la surveillance qui est faite en France. Mais bon, bref, c'est comme ça, c'est à voir. En tout cas, je demeure prudent par rapport à ces choses-là. Section suivante, privacy. Les VPN, l'usage des VPN peuvent exposer les Américains à la surveillance. L'article est très intéressant parce qu'il aborde le FISA section 700. FISA section 702, qui est sur le point d'expirer, donc d'être renouvelé, qui est un des outils assez puissants de surveillance américaine. Et toujours l'acte exécutif 12333, je crois, qui sont les deux outils utilisés par les Américains pour espionner ou collecter de l'information sur les étrangers. Et c'est ça le point. Et le fait du VPN, dans ce cas-ci, dans l'article, ce qui est intéressant, c'est que comme la doctrine, notamment des services de renseignement américains, est sur le fait que si on ne connaît pas l'origine de la communication, on présume qu'elle est non américaine, ce qui fait que si on utilise un VPN pour consommer des services, alors notre communication va être présumée comme étant non américaine, même si à l'origine des États-Unis. Et donc, elle va être surveillée par les agences de renseignement américaines. Puis c'est aussi un rappel pour les gens qui ne sont pas aux États-Unis que les États-Unis sont capables de faire ce genre de degré de surveillance-là. On l'avait vu personnellement avec Snowden. C'est un rappel comme ça, de ça et que le 702 et l'ordre exécutif permet d'aller très loin aussi en termes de capture de contenu. Ça serait aussi intéressant de commencer de voir cette discussion parce que l'Europe aussi a certaines capacités de surveillance aussi. La Chine en a aussi. Donc de voir comment on articule ça. C'est beau de dire qu'on a la protection de la vie privée et ces différentes facettes comme ça. En même temps, quand on a ces monstres-là qui surveillent, en même temps, qui vont très loin dans ce degré d'invasion de la vie privée, si on veut, de voir comment on rebalance ça correctement et que ça arrive à l'objectif de la protection des renseignements personnels, que l'État puisse aussi arriver à ses objectifs de protection de ses citoyens, parce que c'est un peu ça l'objectif dans ce cas-ci, c'est un objectif de sécurité. Donc, de voir comment tout ça s'articule. Puis on a peut-être perdu de vue avec le temps le fait que l'objectif est un objectif d'assurer la sécurité du pays et de pas... bref. On n'ira pas en géopolitique. C'est pas tant mon créneau fort. Puis je suis encore plus dans l'opinion qui est un peu moins bien appuyée. Puis j'aime en parler, par exemple, dans un contexte privé de ce genre de choses-là, parce que j'ai beaucoup à apprendre et j'ai beaucoup à explorer dans cette facette-là. Dernière nouvelle de cette section-là, comment construire un chat d'encryption bout en bout ou end-to-end. Très intéressant. C'est une belle explication technique qui explique comment y arriver. C'est pas l'usage de même chose que Signal que de Whisper, mais c'est une autre approche, mais donc de voir et de comprendre nous aide à mieux saisir ce que c'est, comment ça fonctionne et de poser les meilleures questions quand on fait face à ce genre de système-là. Section suivante, loi. De ce cas-ci, le premier bloc, là, c'est vraiment un aspect de contrôle d'âge sur Internet et ainsi de suite, ou contrôle des protections des enfants, parce que je comprends mal un peu les facettes à ça. Il y a notamment le fait que GrafenOS refuse de faire de la vérification d'âge, donc dès lors accepte l'idée d'être banni dans certains pays. Il y a un ingénieur, quelqu'un qui a soumis une composante de vérification d'âge dans Linux, et là, ça crée beaucoup, beaucoup d'émotions, parce que d'un côté, le libre, puis ça a généré beaucoup de questionnements aussi, pourquoi c'est fait, la capacité de vérifier, qu'est-ce que ça a comme valeur, et ainsi de suite. Et il y a tout le volet européen aussi, le chat control, qui est essentiellement qui est en cours, en tout cas du moins au 29 mars, au moment où je devais enregistrer, est en train de tomber. Plusieurs facettes est en train de se décortiquer, de se défaire. Puis l'essentiel de ce qui sort de ce côté-là, c'est le message. Puis moi, ce qui me rejoint le plus dans l'autre, c'est le fait d'être capable de protéger les enfants. Fait qu'il faut effectivement arriver à l'objectif. Mais les moyens techniques à l'heure actuelle, les législateurs n'ont clairement pas la bonne compréhension des outils technologiques. Donc, ils arrivent avec des espèces d'approches qui sont weird, qui à terme, puis jusqu'à présent, ça a toujours été comme ça, n'ont pas réussi à atteindre l'objectif voulu, donc incitamment à protéger les enfants. Donc, il faudrait peut-être revenir en arrière, au lieu de parler de moyens technologiques, de partir du « je veux protéger les enfants » et de descendre pour aller dans cette direction-là. Et la dernière nouvelle, ce sous-bloc-là, sur tout ce qui est sur les enfants, et la loi, Meta a perdu un procès aux États-Unis qui justement faisait le fait que ne mettait pas suffisamment d'emphase pour protéger les enfants. On est dans un contexte où les grandes corporations ne protègent pas suffisamment. On essaie de passer des lois qui sont complètement inefficaces, puis autant les deux, puis c'est ça qui est drôle, autant Chat Control dit que, ou les détracteurs de Chat Control disent que c'est complètement inefficace, et le cas de la cour aux États-Unis du procès de Meta démontre effectivement que les méthodes automatiques mises en place par Meta sont littéralement inefficaces pour arrêter les problèmes. Ça fait juste polluer les corps de police d'alerte qui sont complètement inutiles et qui ne permettent pas de protéger les enfants. Donc, on voit sur deux facettes, autant américaines qu'européennes, que les moyens en place sont inefficaces pour protéger les enfants. Donc, autant le modèle législatif très robuste à l'européenne, autant l'espèce de contrôle ou de poursuite, potentielle poursuite aux États-Unis, les deux n'ont pas réussi à arriver à l'objectif protéger les enfants. Fait que là, je suis content de voir qu'aux États-Unis, le procès nous amène dans une direction intéressante, nous amène à divulguer des informations intéressantes aussi de la part de Meta, de voir l'intérêt de la machine davantage, donc d'amener cette conscience-là et de peut-être amener une réflexion qui va peut-être, j'espère, vous amener dans une zone plus propice à la protection des enfants, que ces outils-là puissent être moins toxiques pour les enfants ou à utiliser pour abuser les enfants, comme c'est le cas présentement. Fin de cette section-là, la Cour suprême des États-Unis a refusé de revoir un cas sur la liberté de presse aux États-Unis. C'est le cas passé, puis c'est ce que j'en comprends, puis je suis pas un avocat. Et sur le fait qu'il y a une loi au Texas qui essentiellement force la divulgation d'informations du journaliste, donc vient nuire à la protection des sources. L'objectif de l'avenir en Cour suprême était de débouter la loi et essentiellement ce que la Cour suprême a fait a refusé. Donc la loi est encore en action, même si la loi n'a pas réellement défait, parce que les paliers supérieurs du système de justice américain ont défait les différentes choses qui ont été qui ont été mis en action. Donc, c'est un peu plat de ne pas se débarrasser de cette loi-là. Donc, ça donne toujours la capacité aux forces de l'ordre d'intervenir, de faire l'arrestation, de faire la mise en accusation. Par ailleurs, comme ça a été démontré, ça va être débouté automatiquement puisque cette loi-là n'a pas capacité. Donc, c'est vraiment bizarre, une loi sans capacité, mais qui, en tout cas, c'est un peu plate que la Cour suprême n'ait pas tranché puis justement de venir protéger, mais le contexte actuel américain nous amène dans cette situation bien malheureuse. Autre cas dans la Cour suprême des États-Unis, il vient de protéger davantage les fournisseurs Internet qui, essentiellement, dans ce cas-ci, étaient accusés de ne pas suffisamment faire attention pour l'échange de matériel protégé par les droits d'auteur. On est toujours dans ce contexte-là où on est les ayants droit essaient beaucoup d'utiliser la cour pour faire valoir. On le voit beaucoup en Europe aussi, dans les lois en Italie ou en France, qu'ils mettent de la pression sur les fournisseurs ou certains types de fournisseurs pour venir limiter les cas de piratage ou d'enfreindre les droits d'auteur. Donc, dans ce cas-ci, ce n'est pas les fournisseurs Internet qui doivent porter le plus gros de la charge, en l'occurrence. Donc, ça vient clarifier un peu, puis ça leur met les fournisseurs Internet à la place où ils sont. C'est-à-dire que c'est des tuyaux qui transportent le contenu. Et c'est important qu'ils restent aussi dans cet état-là de tuyaux qui déplacent le contenu, puisque ça évite beaucoup d'autres problèmes. Puis c'est un peu la nature même de l'Internet d'être cette liberté-là de se promener. Commission européenne fait une enquête sur une brèche associée chez AWS, un de leurs comptes. Ça n'a pas grand-chose à dire pour le moment. Les nouvelles s'en viennent, je les ai vues cette semaine, donc je me garde ça pour l'épisode qui va sortir le 7. La Californie passe une loi qui permet ou force les parents à effacer les contenus sur les réseaux sociaux des enfants une fois que les enfants sont devenus des adultes. Je trouve ça intéressant comme approche parce qu'effectivement, il y a des parents qui sont un peu exagérés. Il y a un cas d'ailleurs d'une fille qui est maintenant adulte qui poursuit, puis c'est ça qui a initié ça. Il poursuit ses parents parce qu'il y a eu de l'exagération de sa mère, notamment, de diffuser, puis ça l'a amené à des problèmes dans la vie de la fille, notamment de se faire harceler ou des choses comme ça. Même si sa mère le savait, elle a continué malgré tout à diffuser sa vie sur Internet. Donc, c'est un peu dans cette optique-là. Donc, ça ramène aussi le droit que les enfants ont. Le parent n'a pas un droit absolu sur les enfants, ce qui est une bonne chose, puisque dans l'univers numérique, les stigmates qu'on peut faire si on diffuse trop d'informations, ça peut être problématique de ce côté-là. Section rouge, le premier, c'est tout sur le volet de Apple avec Dark Sword. C'est un événement très important en cybersécurité, puisque là, c'est la première fois qu'on voit apparaître un kit de grade nation state qui est dans les mains de tout le monde. On commence à voir l'énervement. Ça fait plausible. Proof Point commence à avoir des tentatives qui utilisent ce kit-là de façon plus importante pour faire des efforts d'info stealer puis de voler de l'information. Donc, on est de ce côté-là que c'est en train de se faire. Donc, on voit apparaître la réutilisation. Apple dit que le lockdown, mode lockdown, protège correctement. Fait que si vous vous sentez dans un problème, c'est vraiment aucun téléphone avec le mode lockdown n'a été attaqué ou une attaque réussie. Apple aussi envoie aussi des messages à tous les téléphones qui ne sont pas patchés, donc c'est très important. Même la version 18 qui a des patchs permet justement de recevoir les messages. Fait que, mettez à jour. Le plus que vous pouvez à ce stade-ci, là, c'est un peu tard de le dire. Là, la semaine passée, j'aurais dû sortir normalement cet épisode-là, c'était arrêté valide. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le, ça presse. C'est une chose que j'ai exécuté la plupart des endroits où les recommandations que je faisais, c'était au plus pressant de mettre à jour, bloquer les vieux appareils, délester, et ainsi de suite. Mais ça l'amène beaucoup de réflexions sur le fait qu'on transforme les choses. Je vais avoir un épisode qui va sortir aussi avec Guillaume Bras sur le sujet, sur lequel on débat un peu. Puis la nouvelle de Proofpoint n'est pas tout à fait alignée avec le propos de Guillaume, mais bref, on a une discussion intéressante sur le sujet, puis vous prenez une idée à partir de cette discussion-là qui va sortir dans les prochaines heures, prochains jours, là, quand je vais avoir rattrapé tout le retard que ce déplacement-là a causé, et que j'ai clairement dû restructurer ma façon de faire, surtout si je suis en déplacement. Bref, faites cette sous-section-là. Le voice phishing est de plus en plus important. Donc, maintenant, on a déplacé tout ce qui était des courriels vers la voix. C'est fort utile. C'était la façon ancienne de parler aux gens, de les convaincre. Mais on revient à ces stratégies-là. Le fait que Microsoft et Oracle, puis pas les seuls, on a Fortinet aussi dernièrement aussi, sortent des patchs en urgence. C'est peut-être un signe qu'on a des problèmes de qualité importants dans ces compagnies-là, qu'on a passé d'un univers où la stabilité et la sécurité étaient quand même très importantes. Et là, on a peut-être une accélération, une diminution des contrôles qualité qui sont en place pour assurer les produits qui sortent. Donc, c'est à se questionner. Ça, on met ça en adéquation avec le fait qu'on a du AI qui cherche de façon complètement folle sur les vulnérabilités qui vont nous obliger dans les prochains mois, prochaines années à accélérer la cadence, notamment du des correctifs et la découverte des problèmes. Donc, on a un élément très, très fascinant à observer, ou en tout cas, pour être très vigilant. Suivant aussi un autre, en même temps qu'en parlant de Dark Sword, Coruna qui est sorti, il y a tout le volet trivia que j'avais abordé avec François Pro. Et Sébastien, et j'oublie son nom de famille, ça, j'ai une petite tête. Il y a déjà deux semaines, d'ailleurs, ils reviennent, François revient sur le podcast pour parler des suites, mais Light LLM, notamment, est un projet qui a été attaqué par tout le débarque de Trivi et à quoi et tout ce que ça a suivi. Fait que ça va être intéressant, l'épisode avec François que je vais sortir aussi dans les prochains jours, justement pour que ça soit toujours pertinent quand vous allez l'écouter. Mais bref, c'est dans un contexte comme ça où ça s'amène, où les chaînes d'approvisionnement vraiment sont rendues un problème très, très important qu'on doit tenir en compte. Dernière nouvelle de cette section-là, Bitwarden a doublé ses prix. Bitwarden est un des moins chers, d'ailleurs, en termes de voûte de mots de passe. OnePassword a aussi augmenté ses prix dernièrement. J'ai personnellement délaissé le volet familial de OnePassword parce que mon abonnement Proton notamment comprend ProtonPass, fait que je ne peux pas payer deux fois, fait que je vais vers un. Et l'augmentation des prix était juste la petite poussée que j'avais besoin pour délaisser. Ça l'amène aussi les questions, parce que j'utilise OnePassword. L'article lui-même, c'est juste sur la mode de communication de Bitwarden qui a été complètement déficiente et la stratégie de communication de OnePassword qui est tout à fait légitime en l'occurrence. Donc, c'est plus sur ça que la personne avait s'était attardée. Et de toute façon, cette personne-là était en train de s'installer une voûte pas supportée par pas connectée. Donc, si vous voulez avoir une voûte autonome qui n'est pas dans le cloud ou qui est selon vos infrastructures, l'article aussi aborde ce point-là des choses, mais bon, ça change un peu. Puis moi, de mon côté, c'est tout le volet où le fait que j'avais commencé à utiliser OnePassword dans l'époque où on pouvait le faire fonctionner en mode autonome. Où on pouvait avoir sur un dépôt de fichiers qu'on contrôlait la synchronisation sur différents appareils. Et finalement, ils ont changé leur modèle d'affaires pour le déplacer vers un modèle payant à abonnement. Puis j'ai résisté jusqu'au maximum de ça parce que c'est pas une approche que j'aime beaucoup. Fait que je trouve ça très plate parce qu'en plus, que OnePassword, c'est une compagnie canadienne qui nous oblige à aller foncer dans ce chemin-là. Ben, je suis un peu triste parce que j'aimais bien J'aime bien l'outil, mais rendu là, je ne paierai pas parce que j'allais dans d'autres choses, j'allais dans ProtonPass en l'occurrence. Fait que j'ai plus d'aucune raison de l'utiliser. Puis l'avantage qu'il y avait à l'époque, c'était de fonctionner en mode déconnecté. Donc, pas hébergé dans le cloud, mais ça n'est plus disponible. Bitwarden semblerait pouvoir, il y a une version qui est disponible comme ça. Fait que regardez-la si vous êtes de cet acabit-là. Pour le moment, bon, comme c'est inclus dans mon abonnement à Proton, je le mets à cet endroit. Alors, regarde, je vais regarder voir si Bitwarden, la version déconnectée, peut m'être utile et commencer à migrer peut-être vers cette stratégie-là, vers quelque chose de peu plus, pas avec des frais récurrents, mais ça n'arrangerait pas de payer la licence, hein, par ailleurs. Je pense qu'il est gratuit, mais ça n'arrangerait pas de payer la licence, cela étant dit. Mais d'avoir une version déployée en local me conviendrait davantage. Section suivante, qui est la bleue, qui est l'avant-dernière d'ailleurs. Un article qui explique pourquoi les Macs sont les ordinateurs à l'heure actuelle les plus sécuritaires. Très intéressant, parce que même il descend vraiment au niveau du processeur et toute la chaîne de confiance que les processeurs montent à l'usage de ça. Puis on parle, si on veut vraiment plus sécuritaire, si on installe un Linux sur un Mac, on lui parle de M1, M2, J'imagine que ça va être disponible vers M3, M5 éventuellement. Je ne sais pas pourquoi il s'était limité à M1, M2. Mais par ailleurs, toute la chaîne de confiance qui est associée dans ce processeur-là du démarrage garantit que tout se fait correctement, donc plus sécuritaire. C'est un peu une opposition face au CPU de Intel, que tout le volet, il y a un volet de gestion qui est dedans qui est nécessairement vulnérable. Que la chaîne de confiance qui est montée par Mac au niveau matériel, on s'entend, pas au niveau logiciel, et beaucoup plus de confiance que ça, notamment avec l'enclave, notamment avec les autres composants qui constituent tout l'écosystème des processeurs M du côté ARM. Donc, c'est très intéressant de ce côté-là, indépendamment, parce que si on va sur le OS, effectivement, on peut débattre longtemps que Apple ne fait pas exactement ce qu'ils disent, donc ils ne protègent pas tant la vie privée. Nouvelle suivante. Au niveau de la séquence de démarrage en Linux, les projets sont en train de changer. C'est dans un cas de Ubuntu, va délaisser une partie de la complexité. Je pense que c'est grave en l'occurrence pour le Secure Boot. Donc, on va se débarrasser des images, on va se débarrasser de choses. Donc, on vient réduire la surface d'attaque essentiellement de la séquence de démarrage. Ça a amené des débats très passionnés, encore une fois, mais tant plus du fait qu'on est mieux de réduire la surface, donc la simplifier énormément, ce qu'ils sont en train de faire au niveau de la séquence de démarrage de ce qui est Ubuntu. Apple, on revient deux fois sur Apple, on revient plusieurs fois cette fois-ci, clairement, sont très présents. Sur le fait d'avoir la gestion des bugs, quand on leur rapporte des bugs, semblerait que ce n'est pas super fiable, semblerait qu'ils ne fixent pas ou posent des drôles de questions. Fait que lire l'article, c'est intéressant. Fait que si vous êtes utilisateur Apple et que vous avez des bugs à rapporter, sachez que vous devez vérifier beaucoup et suivre davantage que ce n'est pas un processus, on envoie et tout s'arrête là. Google a annoncé qu'il devançait le timeline pour l'encryption résistante au quantique à 2029, qui était en 2030 avant. Donc, de façon perçue, c'est-à-dire que la capacité des ordinateurs quantiques avance suffisamment vite pour qu'en 2029, la probabilité qu'on ait quelque chose de capable de casser la crypto actuelle soit dans les mains. Donc, ça l'accélère un peu. Il resterait que 3 ans pour déployer de la crypto qui est résistante. D'ailleurs, on avait une conférence au Secure sur le sujet par Ping 2. Donc, c'est super intéressant. Il va y avoir un podcast associé. Ça va sortir au mois de mai. Des chercheurs de sécurité ont trouvé plusieurs clés disponibles, clés API disponibles sur le web. Le ratio de nombre de sites scannés versus le nombre de clés API trouvées n'est pas très élevé. Par contre, c'est quand même il y a à peu près 2000 clés qui ont été trouvées. C'est quand même grave. On le voit aussi avec l'attaque de Trivi. C'est un des points importants, c'est que ces clés-là doivent être excessivement protégées. Et clairement, ce n'est pas encore dans les habitudes des gens de les protéger correctement. Donc, soit on les voit dans le code, dans les sites, dans les guides, et ainsi de suite. Donc, assurez-vous que vos clés d'API sont correctement protégées, chiffrées et d'accès assez restreinte. Dernière nouvelle de cette section-là, Microsoft va finir par délaisser les vieux drivers niveau kernel, souvent des vieilles technologies qui ont été abandonnées depuis. C'est un peu une coupure par rapport à ce que Microsoft fait. Normalement, assure une rétrocompatibilité qui est excessivement large et très vaste. C'est un peu la force de Microsoft. De ce coup-ci, étant donné qu'il y a de plus en plus d'attaques sur les pilotes au niveau kernel, Microsoft est obligé de plus d'avancer et de commencer à bloquer. Ça va sortir dans Windows 11 et dans Windows 2025 serveur. Pour justement commencer à bloquer ça. Pour le début, c'est juste en mode surveillance parce qu'il y a une probabilité que ça vienne casser des choses et donc ça va obliger les fournisseurs à venir revisiter leur driver puis s'assurer qu'il n'y a pas des attaques qui sont disponibles. Dans la section d'hiver, 4 nouvelles au niveau du télétravail. C'est ce qui a été remarqué puis c'est intéressant parce que là, ce n'est pas un contexte de retour force au bureau, mais que les études depuis 2020 jusqu'à maintenant, donc depuis 6 ans, il y a eu le fait que beaucoup de gens sont allés en campagne dans les premières années du confinement et maintenant les gens reviennent vers la ville, soit en périphérie ou littéralement en ville. Donc, ça, même si les gens commencent à travailler à distance, vont continuer à vouloir bénéficier des avantages dans un contexte urbain. Donc, on a peut-être découvert que la nature, c'était pour eux autres essentiellement. C'est un rêve de cette époque-là, de ce moment-là, de ce moment social-là qui s'est passé. Et de revenir comme ça, même si les gens continuent à tenter le travail. Je suis un exemple. Ben, je suis un exemple. Je suis pas un exemple parce que j'ai pas allé à vivre en campagne, là. C'était pas ça. Mais moi, je suis entièrement en ville, puis je suis très content de ma situation. Puis je ne changerai pas, même si la majorité de mon travail est en télétravail, de toute façon. Mais ça me donne l'avantage de pouvoir rapidement aller sur les sites des clients, d'aller leur parler, des voir aussi, parce que ça ramène qu'on est on est des humains, on est grégaires, donc on aime le contact des autres aussi. Ça a une certaine valeur. C'est juste de le calibrer correctement. Dans mon cas, je pense qu'on va trouver l'équilibre qui me convient. Il me permet de voir de façon suffisante les gens en personne. Mais je le mentionnais aussi, notamment pour le fait que je sois en cyber, que j'étais à Lille jusqu'à hier. Et justement, un élément important d'aller voir les gens qui sont des amis dans la plupart des cas maintenant, que le temps là, depuis, d'aller les prendre des pintes ou les prendre des cafés avec des gens que je vois pas souvent. Donc, je trouve ça très agréable d'avoir ce contact-là plus humain, plus smouché. Puis, pour certaines personnes, ça peut être étonnant de m'entendre dire ça, mais le frais extrême du confinement m'a permis de voir un côté, puis de maintenant me recalibrer à la bonne place, qui n'est pas nécessairement en contact extrême, mais qui est plus ça. Bref, nouvelle suivante, l'open source, c'est pas gratuit. Je trouve important cet article-là parce qu'on y revient souvent, puis de plus en plus maintenant, le mouvement s'accélère, c'est que ceux qui entretiennent des projets open source sont de plus en plus sous tension, reçoivent de plus en plus de communications hostiles qui les découragent ou qui les écœurent littéralement de continuer là-dedans. Donc, il y a même des projets qui ont été abandonnés parce que les remarques ou les demandes des gens étaient extrêmes. Les gens ne payent pas puis ils veulent un support comme s'ils payaient super cher. Donc, c'est un peu étrange. Puis en plus, il y a des très grandes compagnies qui utilisent beaucoup de ce code-là. Il retourne très, très peu d'argent dans ces gens-là qui mettent du temps pour maintenir des solutions open source qui essentiellement font vivre l'Internet actuel, font vivre le commerce. Et ce n'est pas eux qui bénéficient. Donc, il serait important que ce retour-là, de un en argent pour aider les gens à vivre, parce qu'il faut manger, hein, n'est-ce pas? Et de l'autre côté, un retour de plus en plus grand du code ou des efforts qui sont faits. Je sais qu'il y a certaines grandes compagnies américaines qui le font, mais toute proportion gardée, c'est négligeable la quantité qu'ils font. L'autre aspect, puis ça, je suis un fervent partisan de ça, c'est que les gouvernements, au lieu de payer des firmes privées à fort prix pour des logiciels privés qui ne sont pas utilisés, mais qui prennent un projet open source massif et celui-ci le déplace. On le voit un peu là, actuellement en Europe avec Nextcloud-ish qui sont en train de faire un peu ce genre de choses-là. Donc, de ramener la suite Nextcloud dans un giron gouvernemental européen et dès lors, si le gouvernement pouvait allouer un certain nombre de développeurs, parce qu'il y a beaucoup de développeurs qui travaillent au gouvernement de façon comme employés ou comme contractuels, et mettre cet effort-là de développement ou d'amélioration et retourner ça à la communauté aussi. Donc, ce serait une façon aussi que l'argent public retourne dans la sphère publique, ce qui, à mon sens, est tout à fait logique, au lieu de juste payer des logiciels fermés qui sont privés. Mais bref, là, on est dans des aspects plus philosophiques. Avant la nouvelle, les PC en entreprise sont beaucoup moins et reçoivent beaucoup moins d'amour. C'est vraiment comme ça que l'article est nommé. Le fait que les Mac sont beaucoup plus entretenus, on le voyait dans les points souvent, Apple est beaucoup dans ce cycle-ci. Et essentiellement, c'est une firme qui fait de la gestion de parc informatique et remarque que la durée de vie des Mac est beaucoup plus grande que celle des PC, sont beaucoup plus à jour, c'est-à-dire que le délai de mise à jour est beaucoup plus rapide, beaucoup plus petit sur les Mac que sur les PC, qui sont beaucoup moins désuets. Le cycle de changement ou bref, tout ça donne beaucoup de valeur à ce qu'un Mac peut être, même si de façon perçue, il est peut-être plus coûteux. Si on dit que, je ne me rappelle plus des chiffres de l'article, mais c'était quand même des chiffres assez importants que ces ordres-là peuvent rester jusqu'à 6 ans et être encore utilisables au bout de 6 ans dans l'entreprise. Je pense qu'on recoupe le coût très rapidement de ça si on doit changer les PC aux 3 ans, par exemple. Et en plus, le changement massif que Microsoft a forcé dernièrement avec Windows 11 est effectivement un déplacement de coût très important, donc d'envisager comme ça. Mais je trouve ça intéressant de voir que les Mac et iOS sont toujours plus rapides que les Windows et Android à se mettre à jour, à être dans leur version, à être entretenu, à être maintenu et ainsi de suite. Donc, c'est très, des statistiques très intéressantes. Je suis un utilisateur de Mac, je m'en cache pas. Mais je ne savais pas que c'était à ce niveau-là ou à ce point-là. J'avais toujours l'impression que les entreprises avaient une structure très, très forte pour entretenir et maintenir les PC. De toute apparence, ce n'est pas le cas. Dernière nouvelle, puis ça vient recouper beaucoup ce que j'ai mentionné jusqu'à présent dans ce cycle-ci. Les deux prochaines années vont être très importantes. Il y avait beaucoup de nouvelles qui étaient associées à RSA dans ce cycle-ci. Je n'ai filtré beaucoup parce que c'est plus de la pub puis du placement de produits. Fait que ça a été un peu ça qui était long à filtrer. J'avais pris 250, 300 articles cette semaine à cause du bruit du RSA, que j'ai réduit à 40. Là. Fait que ça, j'ai enlevé beaucoup, beaucoup de bruit pour conserver ce que je perçois comme étant pertinent, là, bien sûr. Et vous avez toujours l'opportunité de me signifier que vous avez peut-être des sujets d'intérêt que vous aimeriez que j'aborde davantage. Mais bref, les deux prochaines années vont être complètement insane, si on prend le titre de l'article, sur le fait que le AI arrive, le fait qu'ils vont retrouver rapidement les vulnérabilités et qu'on aura des problèmes associés à ce genre de choses-là. Fait qu'on va avoir un point de pivot important là, qu'il est en train d'avoir. Fait qu'en 2026, je pense qu'on va avoir beaucoup de surprises. Le AI va changer beaucoup de choses. La bulle risque d'éclater cette année. La façon que les modèles se développent vont changer, ou probablement aussi cette année, la façon que les gens avancent avec ça. Il va peut-être avoir des agents personnels du agentique ou du open cloud, ou peu importe comment ça se dessine. Il va probablement maturer cette année. Donc, on va commencer à avoir des objets qui vont être utilisables et de façon sécuritaire. Donc, ça est autant pour les attaquants que pour les gentils. Donc, on verra ce que ça donnera, mais c'est très important. Puis c'est un peu préoccupant, mais en même temps, je pense que je ne manquerai pas de travail. Puis ceux qui pensent qu'il n'y aura pas de travail en sécurité, bientôt, je pense qu'ils font fausse route parce qu'on a clairement devant nous quelque chose de très complexe à gérer, qui va avoir des influences très, très importantes sur nos vies et qui aura, je crois, des choses de transformation importantes au niveau social. Ça complète pour cette semaine tous les podcasts qui ont été retardés à cause de celui-ci notamment vont sortir justement parce que là, j'ai pris du retard puis je vais faire un cycle de sortie qui est quand même assez fort, ça va aller assez vite puisque j'ai énormément de podcasts qui ont été enregistrés sur la gueule sur des nouvelles que je ne peux pas retarder trop longtemps donc ça va bousculer un peu mon horaire mais bref, malheureusement je vais vous inonder encore de diffusion. Puis j'en ai plusieurs autres, notamment avec l'entente que j'ai avec ITSEC aussi, va ramener des épisodes très intéressants avec des sujets. Mais bref, sur ça, à la semaine prochaine, techniquement, mais ça va cette fois-ci, je vais sortir vraiment la bonne journée. Je vais sortir le lundi parce que je suis déjà prêt pour l'autre. Puis les épisodes qui suivent vont descendre rapidement. Merci beaucoup. Encore une fois, si vous avez des suggestions, des sujets, gênez-vous pas, vous pouvez me contacter sur toutes les plateformes qui existent, donc à la semaine prochaine.